Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Dans un contexte mondial où les enjeux climatiques, économiques et sociaux se croisent de manière inextricable, l'Afrique se positionne non seulement comme un terrain de défi, mais surtout comme un vivier de solutions. Alors que le continent se trouve à un carrefour décisif de son développement, la Semaine de l'Afrique des solutions et durabilité s'impose comme une plateforme incontournable pour repenser le futur africain et du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
L'énergie est au cœur de la nouvelle politique de l'orientation africaine face également aux réalités de l'environnement, mais aussi aux réalités socio-économiques et politiques. Aujourd'hui, l'Afrique veut se positionner parmi les pays dans le cadre d'un hub sur l'énergie assez favorable, mais aussi assez orienté vers la préservation de l'environnement. Dans cette optique, aujourd'hui, pour en parler, nous recevons un de nos experts maison, M. Elhaj Mbaï, spécialiste en économie d'énergie, en énergie renouvelable, système de management d'énergie ISO 50001, notamment sur les questions de changement climatique et développement durable. Bonjour et merci comme toujours, M. Mbaï, de répondre à cette invitation.
Oui, bonjour M. Tonkara, un plaisir d'être avec vous comme d'habitude.
Alors, sans plus tarder, quelle place occupe l'Afrique dans la production d'électricité mondiale actuelle?
Oui, l'Afrique effectivement occupe une place assez marginale, il faut le dire, hein, parce que dans la production d'électricité, on parle souvent en fait de, disons, de 3% en fait qui revient à l'Afrique. Quand on parle de changement climatique, on dit souvent 3%, 4%. Mais même dans ces chiffres, il faut l'éclater pour comprendre véritablement en fait le retard que l'Afrique occupe en fait dans cette production. Quand on éclate les 3%, le Maghreb occupe à peu près 1%. Hein. L'Afrique du Sud, le géant en tout cas qui est un géant africain économiquement parlant, occupe aussi 1%. Et les 1% restants, figurez-vous, M. Tonkara. Mm-hmm. 47 pays africains se partagent les 1% restants. 47 pays de l'Afrique subsaharienne hors Afrique du Sud. Mmh. Voilà. Donc, ce qui veut dire que vraiment, en fait, on est complètement en retard. Et juste pour être explicite, en fait, dans ce domaine, moi, j'ai une statistique que j'aime bien, en tout cas, préciser.
Tout à fait.
Quand on prend l'Espagne, la petite Espagne, géographiquement parlant, l'Espagne produit plus d'électricité que les 47 pays d'Afrique subsaharienne réunis hors Afrique du Sud.
Ah, d'accord.
Ça, ce sont des statistiques qui choquent, quoi. Voilà, mais c'est la réalité.
Et par rapport également à cette réalité, justement, quelles sont les tendances de production d'électricité dans le monde et la place aussi de l'Afrique?
Effectivement, l'Afrique, malheureusement, comme je l'ai tantôt dit, reste toujours spectatrice avec ses, en tout cas, maigres parts de production. À titre d'exemple, pour vous dire la part du Sénégal, quand on essaie de le chiffrer, en tout cas avec des chiffres, c'est des 0,0 et quelques pourcents. Voilà. Et par rapport effectivement à cette tendance qui se dessine, les chiffres de l'Agence internationale d'énergie, il y a toujours en fait le trio de tête, Chine, USA, Inde, qui occupe ces trois pays occupent 50% de la consommation ou de la production mondiale. Voilà. Donc, et les énergies fossiles qui sont vraiment le problème du monde actuellement, stagnent actuellement et dans les trois prochaines années, on voit qu'ils vont quasiment représenter aussi 60% du mix énergétique mondial. On parle du charbon, on parle du gaz, on parle du nucléaire, même si les énergies renouvelables sont en train de progresser pour atteindre à peu près 40%, qui vont atteindre 40% d'ici 2027. Donc, mais les énergies renouvelables, ne peuvent pas se substituer aux énergies polluantes. Mmh. C'est ça la réalité.
Et est-il juste donc de parler de transition énergétique juste en Afrique au vu de sa responsabilité dans la pollution?
Mais effectivement, question intéressante parce qu'effectivement, parler de transition énergétique juste en Afrique, moi, ça me semble assez incongru quand on connaît justement précisément les responsables de cette pollution. Et ce n'est vraiment pas l'Afrique qui est responsable de cette pollution, clairement. Donc, et là, justement, l'Afrique veut se voir imposer une transition énergétique comme si, effectivement, elle contribuait de manière significative à cette situation. On connaît les responsables. Il y a certes, en tout cas, beaucoup d'Africains qui sont dépourvus d'électricité, ça, il faut le dire.
Tout à fait.
On parle de 300 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Et les énergies renouvelables, croyez-le, sont parfaitement adaptées pour solutionner ce problème. Parce que quand on vend le solaire, quand on le déploie, en fait, dans le rural, c'est plus facile qu'en tout cas de déployer un réseau interconnecté qui coûte très cher. Et du coup, le solaire, typiquement, peut être une solution. Mais l'Afrique n'a pas seulement besoin d'alimenter ses 300 millions. L'Afrique a besoin de s'industrialiser. L'Afrique a besoin de créer des industries, de faire fonctionner des fonderies, etc., des usines de transformation de matières premières. Et croyez-le, M. Tunkara, ce ne sont pas des panneaux solaires. Ce ne sont pas avec des panneaux solaires qu'on va s'industrialiser.
Tout à fait.
La preuve, 60% justement des économies des riches sont actuellement alimentées par les énergies fossiles.
Et par rapport à ça d'ailleurs, justement, professeur, par rapport donc à ces réalités aussi, ce paradoxe, est-il donc dans cette même dynamique, par exemple, le Sénégal aujourd'hui est dans le programme du JETP, Just Energy Transition Partnership, avec l'Afrique du Sud, le Vietnam et l'Indonésie. Que pensez-vous donc de la présence du Sénégal dans cette structure?
Effectivement, le JETP, de plus en plus on en parle, JETP, Just Energy Transition Partnership en anglais, qui veut simplement dire un partenariat pour une transition juste, dans lequel est embarqué le Sénégal, avec trois autres pays que vous avez cités, l'Afrique du Sud, le Vietnam et l'Indonésie. Mais en fait, figurez-vous, normalement, le JETP a une philosophie d'aider les pays à faible revenu, à revenu intermédiaire, de sortir de la pollution. Et quand on dit de sortir de la pollution, c'est vraiment les pays producteurs d'électricité à partir du charbon, disons majoritairement. Donc quand on prend en tout cas les trois pays que sont l'Afrique du Sud, le Vietnam et l'Indonésie, je veux dire, on peut vérifier, ces pays dépendent, en tout cas ont une forte proportion de charbon. Là. Le Sénégal, moi je suis en fait l'actualité actuellement, le Sénégal ne dépend pas du charbon, clairement.
Tout à fait.
Le Sénégal, en tout cas, dépendait, à un moment donné, dépend jusqu'à présent même des énergies comme le fuel, mais le Sénégal a entamé sa transition énergétique depuis sa découverte de gaz. Donc, le Sénégal est en train de switcher pratiquement tous ses équipements fonctionnant au fuel avec du gaz. Maintenant, la question fondamentale, je pense que c'est aux autorités peut-être qui ont signé cet accord de nous préciser qu'est-ce que le Sénégal en tout cas pourrait faire en tout cas dans ce JETP. Mais moi, ça me pose en tout cas un vrai problème vu que les quatre pays n'ont pas, comme on dit, le même dénominateur commun, à savoir cette dépendance au charbon.
Cette dépendance au charbon, aujourd'hui aussi, comme on le dit, selon vous, comment l'Afrique doit donc faire pour sortir de sa pauvreté énergétique, conséquence d'ailleurs de sa pauvreté économique?
Effectivement, M. Tunka, vous le dites si bien, parce qu'effectivement, énergie et économie sont intimement liées. Un pays qui ne décolle pas, en tout cas énergétiquement, ne peut pas décoller économiquement. Ce n'est pas possible. Et du coup, effectivement, on organise à chaque fois les fameuses COP, théoriquement, pour définir des stratégies, en tout cas liées à l'énergie, à la politique énergétique. Et à mon sens, je pense que l'Afrique, ce qu'elle devrait faire en particulier, c'est vraiment de travailler pour asseoir son propre agenda énergétique, bien sûr en tenant compte du climat. Voilà. Parce qu'effectivement, on le dit souvent, les promesses financières, vous avez vu la COP29, comment ça s'est passé?
Tout à fait.
On a parlé effectivement de COP des finances. C'est comme si le changement climatique a été relégué au second plan. Mais il ne faudrait surtout pas que l'Afrique continue à être, en tout cas, trompée par comme on dit, ses promesses financières. Il faudrait que cette Afrique puisse asseoir son agenda énergétique. Et quand on dit agenda énergétique, c'est vraiment mettre en place aussi bien, en tout cas, une politique qui va promouvoir les énergies propres, parce que l'Afrique a un potentiel, mais aussi il faudrait ouvrir une fenêtre pour bénéficier en tout cas des énergies bas carbone. Et moi, quand je cible bas carbone, je cible en particulier le gaz qui est considéré comme une énergie de transition.
Comme une énergie de transition, d'ailleurs, parlant de transition, comment les pays africains peuvent financer leurs investissements dans le secteur énergétique contrôlé par les majors?
Effectivement, c'est toute la question, en tout cas la grande question, parce qu'effectivement, on le sait bien, beaucoup de pays africains n'ont pas, en tout cas, cette capacité vraiment de financer les investissements qui sont très lourds dans le oil and gas en particulier. Voilà. Et donc, du coup, moi, je pense que l'option vraiment de coopération régionale est une solution. Je pense à des pays comme le Maroc qui peut coopérer avec le Sénégal pour en tout cas trouver des financements pour explorer ce secteur. Mais au-delà, en fait, de cette coopération sous-régionale, je ne sais pas si, M. Tunkara, vous avez entendu parler de la Banque africaine de l'énergie. Parce qu'effectivement, c'est vraiment une banque qui est une voie de salut pour arriver à financer les investissements africains dans ce secteur qui, comme je l'ai dit, qui sont vraiment très lourds, en fait, à mettre en place. Et justement, pour finir sur cette question, moi, j'exclus totalement l'idée vraiment de à ce que l'Afrique puisse vendre des hydrocarbures pour financer le développement des énergies renouvelables. Ça, je ne peux pas le comprendre et il faudrait qu'effectivement que l'Afrique soit beaucoup plus altruiste, en tout cas dans ce monde où vraiment prédominent les intérêts.
Et aujourd'hui, quelles sont donc les perspectives ou quelles sont les solutions selon vous, idoines ou les pistes de solutions que l'Afrique devrait tendre à aller, bien évidemment, pour pouvoir résoudre cette question de l'énergie?
Tout à fait. Vous savez, M. Tunkara, l'Afrique est assez riche en potentiel. L'Afrique a un énorme potentiel solaire. L'Afrique a un énorme potentiel éolien. D'ailleurs, l'éolien, en fait, qui est vraiment une énergie d'avenir, parce qu'effectivement, les performances des turbines éoliennes, en tout cas, progressent d'année en année. Et comme je l'ai dit, il ne faudrait surtout pas que l'Afrique se limite, se cantonne, disons, aux énergies propres. Moi, ma philosophie, c'est vrai, l'Afrique devra se développer, l'Afrique devra faire attention au climat, je suis parfaitement d'accord, mais l'Afrique, encore une fois, devrait mettre en place vraiment une politique énergétique basée sur aussi bien les énergies propres, mais aussi les énergies, en tout cas, bas carbone, encore une fois, comme le gaz. Mais aussi, pour terminer sur ce chapitre, l'Afrique devrait intégrer vraiment les bonnes pratiques en termes de baisse de consommation. Parce que, il faut le dire, l'efficacité énergétique, l'énergie saving, comme on dit, peut permettre, en tout cas, d'arrêter justement des centrales ou de rediriger vraiment les économies d'énergie qui sont faites à d'autres utilisateurs qui en ont besoin. Donc c'est vraiment toute une politique énergétique que l'Afrique devra mettre en place pour sortir de ce piège dans lequel il est actuellement enfermé.
Dans lequel il est actuellement enfermé, la solution, l'unique, se trouve en Afrique et par les fils africains, mais également par rapport à une politique énergétique qui répond aux réalités africaines et aussi qui tient compte aujourd'hui de l'évolution également du monde. Et c'est toujours un plaisir d'échanger sur cette thématique avec notre invité du jour, M. Elhaj Mbaï, qui est, je le rappelle, un éminent écrivain spécialiste également en économie d'énergie, en énergie renouvelable, système de management d'énergie ISO 50001, notamment sur les questions de changement climatique et de développement durable. Merci encore, M. Mbaï, de nous avoir fait le plaisir de nous accompagner dans la durabilité de votre expertise.
C'est moi qui vous remercie et je suis toujours à l'écoute, de cette émission pour clarifier et apporter mon expertise.
Merci également à vous, chers amis auditeurs, pour la durabilité de cette confiance renouvelée. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro, toujours sur Medi1 Radio. Au plaisir.